une création.
Blast.
Pagaille, un podcast de Blast. Un micro pour entendre ce qui se passe dans nos territoires.
Il se passe quoi ? Il se passe quoi ?
Épisode 14. Main basse sur le théâtre de l'Escapade à Hénin-Beaumont. Il se passe quoi, Stéphane Titlin, à Hénin-Beaumont ?
En matière de culture, ce qui se passe, c'est que le théâtre, qui a toujours été tenu par une association loi 1901, qui historiquement est une ancienne MJC, et qui est un théâtre qui s'appelle l'Escapade, depuis un peu moins de 15 jours, un peu plus de 15 jours maintenant, est dirigé directement par la mairie. Et donc, ça veut dire qu'une association qui a plus de 50 ans d'existence a été foutue à la porte, parce que très clairement, ça convenait plus à ces messieurs, dames de la mairie RN.
2025 sera l'année du renouveau culturel dans notre ville. Premier changement, nous allons rendre l'Escapade aux habitants d'Hénin-Beaumont.
Depuis 1969, comme le précisait l'acteur et metteur en scène Stéphane Titlin, la mairie d'Hénin-Beaumont a mis à disposition de l'association du théâtre de l'Escapade et le lieu, la salle et les agents. Mais depuis est tombée la nouvelle annoncée officiellement, triomphalement, comme un tribut de guerre lors des vœux de Steve Briouat, le maire Rassemblement National. C'était le 26 janvier dernier.
En fait, c'est beaucoup de choses, l'Escapade.
Gianni Ranieri, élu d'opposition municipale, liste Osons pour Hénin-Beaumont, représentant local du PC.
Premièrement, c'était un lieu de culture populaire qui permettait aux élèves du bassin minier, de l'agglomération des Nain-Carvin, de venir voir du théâtre. Faut pas oublier que cette salle de spectacle, elle est en plein centre-ville, à 100 mètres du collège Gérard-Philippe, à 500 mètres du lycée Senet. Donc c'était une richesse culturelle pour les collèges, les lycées qui ne vont pas au théâtre. J'ai pris la parole lors de la dernière Assemblée Générale en tant qu'administrateur de l'association en disant que je parlais aussi en tant que petit-fils de mineur et fils de chariste et de mère au foyer qui ne côtoyait pas le théâtre s'il n'y avait pas l'école. Et aujourd'hui, justement, c'est ce que je défends, c'est de dire que si, c'est un lieu qui est fait pour nous, qui est fait pour notre classe populaire, qui est fait pour parler à tout le monde.
Le processus, il a été très 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 long.
Stéphane Titlin, metteur en scène, directeur de la compagnie Franche Connexion.
Ils sont arrivés au pouvoir en 2014. L'une des premières choses qu'ils ont fait, c'est de mettre au pas la direction de la médiathèque en disant telle publication, on n'a plus la place, puis on n'a plus l'argent. Donc il y a certains magazines qu'on va plus acheter. On va enlever tel et tel ouvrage. Et puis finalement, il y a quelques années, la salle d'activité de la médiathèque, qui est quand même le lieu où tu peux faire des spectacles pour enfants, des trucs assez intéressants, ils leur ont dit « Ah non, mais on va mettre les archives municipales », en disant « Ah, mais c'est parce qu'on n'a pas la place ».
Il y avait une association qui était une icône, j'aime pas dire été parce que bon, mais qui est une icône du bassin minier, vraiment, qui était d'ailleurs l'héritière de la MJC, qui est l'une des premières de France.
Inès Taouri, élu d'opposition, liste Osons pour Hénin-Beaumont, représentante locale du Parti Socialiste.
L'Escapade, il faut bien savoir une chose, qu'on ne dit pas, c'est qu'au Festival d'Avignon, il y a des spectacles donc, de l'Escapade qui sont diffusés là-bas, tellement qu'il y a une qualité vraiment du travail qui est fourni, donc ce n'est pas anodin. Et la ville a scudé l'Escapade, a été une stratégie menée sur le moyen terme, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse de subventions d'abord, dès 2014, je précise, ça passe de 760 à 300 000 euros. Et vous voyez, l'Escapade, ce qui a été aussi scandaleux, c'est qu'ils ont mené une stratégie vraiment de sape, en changeant notamment la convention à la dernière minute. Donc la ville pouvait annuler un spectacle 15 jours avant la date. Donc vous imaginez comment ça met en difficulté la programmation, l'Escapade. Ils ont changé aussi des agents qui étaient mis à disposition, comme ça, de manière injustifiée. Notamment la responsable communication et programmatrice jeunesse, qui est quand même, c'est un pilier, c'était un pilier à l'Escapade. Vous la changez, comment vous voulez qu'elle mobilise les scolaires, les jeunes, la com, si elle n'est plus là. Donc tout ça, ça a été savamment orchestré.
parce qu'en fait on avait une super agent qui était qui était de la commune, une agent de la ville rattachée à l'escapade, qui faisait un travail magnifique de programmatrice, notamment avec les écoles, qui permettait à ce que les scolaires soient toujours remplis. Cette personne a été gentiment déplacé au service état civil carte d'identité. Et ben oui, quand quelqu'un fait très bien son travail et que on la remercie du jour au lendemain et qu'on demande à quelqu'un qui a mi-temps de faire le même travail, ben forcément on peut pas faire bien son travail, et quand on fait pas bien son travail, ben les salles sont moins remplies.
L'Escapade depuis 1991, qui était une association reconnue avec une programmation ambitieuse de qualité.
David Noël, président de la section locale de la Ligue des droits de l'homme, ex-élu du PC, à Hénin-Beaumont.
Et donc, le fait que cette association culturelle, qui comptait autant dans la vie des gens, et le fait que ce lieu soit aujourd'hui repris par la municipalité RN, c'est la preuve de leur autoritarisme, le fait que le Front National ne supporte finalement aucune résistance face à eux. Toute structure qui leur résiste doit être démolie. Moi, je l'ai vécu en tant que, à l'époque, simple adhérent de la Ligue des droits de l'homme. Aujourd'hui, je suis le président de la section locale de la LDH d'Hénin-Carvin. Mais en 2014, la première association à être sabré par le Front National, c'est la Ligue des droits de l'homme, à qui on reproche simplement des tracts appelant à battre l'extrême droite. Et donc la LDH a été expulsée d'Hénin-Beaumont, du local municipal qu'elle occupait en 2014, pour ça. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce qui arrive à l'Escapade, et plus ou moins pour la même raison. Moi, j'ai en tête les articles que Steve Briouat écrivait en 2007 sur son blog, sur l'Escapade, justement, et il disait à l'époque, oui, Serge Lama vient à Hénin chanter à l'espace François Mitterrand, quel grand artiste que Serge Lama, lui au moins il est anticommuniste, ça nous changera des navets de la dope gauchiste de l'Escapade qui ne propose que des pièces antiracistes. Et ce que Steve Briouat écrivait en 2007 sur son blog, la vengeance est un plat qui se mange froid pour Steve Briouat, puisqu'il a, après quelques années, finalement, il a réussi ce qu'il voulait faire dès le début, c'est-à-dire virer l'association de l'Escapade de son local.
Marine, notre Marine. Hein.
Quand tu vois. Ça complique les choses.
Elle s'appelait Marine ici, très chère Marine Tondelier.
J'étais là avant.
Ah ouais, exactement.
On s'assoit autour d'un café.
J'ai trop faim en fait, j'ai pas mangé ce midi. T'as pas une crêpe?
Il y a deux Marines à Hénin-Beaumont. La nôtre, c'est Tondelier. Elle connaît bien son principal opposant. Voyons cela dans ce sens. Le maire, depuis 2014, Steve Briouat, qui lui aussi est du cru. Le dernier épisode de la municipalisation de la culture dans sa ville ne l'étonne pas. Avec elle, qui est devenue en 2022 la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, devenue des écologistes, on prend un thé à la menthe, le meilleur de la région, selon elle, dans le café O'Dream.
Café en face de l'Escapade, et dans une rue qui m'échappe, parce que c'est la rue où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai habité chez mes parents jusqu'à, je crois, mes 28 ans, jusqu'à ce que j'achète la maison où je vis maintenant. Et donc, il y a l'Escapade qui était, quand mes parents étaient jeunes, une MJC, parce que moi, mes parents sont des Nimbomo, ils se sont rencontrés au lycée à l'époque. Donc c'était une MJC, une maison des jeunes. Et puis, qui est devenue, voilà, ce théâtre municipal avec donc, le lieu qui appartient à la mairie et qui a été mis à disposition avec une convention, comme c'est le cas dans plein de villes. Et donc, une association indépendante qui gérait le théâtre de l'Escapade. C'est une institution, hein, parce qu'y compris avec l'école, on venait voir les spectacles, c'est quelque chose qui compte pour beaucoup de monde. Et j'ai la sensation que c'est ça qui dérange le Rassemblement National. Ils ne veulent pas qu'il y ait des lieux dans cette ville qui échappent un peu à leur contrôle, à leur mainmise. Et donc je pense qu'ils ont toléré ce lieu pendant 10 ans, c'est long 10 ans, je pense qu'ils ont vraiment pris sur eux, parce que je pense qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils savaient qu'ils étaient scrutés, qu'ils savaient que ça déclencherait un tollé, et donc ils ont attendu, comme ils font souvent, moi j'appelle ça un parti vautour, parti opportuniste, ils attendent le bon moment, le moment où la proie est affaiblie pour fondre dessus et la terminer voilà, en charpie.
Et qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce qu'est devenu cette ville sous leur coupe?
Ici, la stratégie du maire, c'est une stratégie de, je dirais, de gendre idéal. Donc, tout sourire, c'est le masque souriant du RN, derrière lequel, bien sûr, se cache leur vrai visage. mais tout est construit là-dessus. Et donc, ils font en sorte que 95% des habitants les trouvent super, trouvent ça même mieux qu'avant. Et puis, s'acharnent sur les 5% qui restent à coup de talon, en se disant que de toute façon, personne ne se solidarisera d'eux, parce qu'ils choisissent que des gens dont personne ne se solidarisera jamais, du genre des opposants municipaux, des syndicalistes, que les gens bien, des journalistes, encore pire, des migrants, alors là, j'en parle même pas, et puis les associations qui leur reviendraient pas, quoi. Genre l'escapade. Ils ont attendu voilà, le moment d'affaiblissement, comme je vous le disais, cette stratégie vautour, en fait, d'attendre que l'animal s'épuise un peu, fatigue, et puis dès qu'il y a une vague, foncer dedans, en fait.
Je pense que à l'arrivée du FN à l'époque au pouvoir en 2014, donc ils sont un peu traumatisés par leurs expériences municipales précédentes à Vitrolles, Orange, Toulon, Marignane, qui ont montré finalement leur incapacité, leur nullité, leur gestion très idéologique. Et donc je pense que l'objectif pour eux est d'avoir une gestion toujours idéologique, mais plus professionnelle. Et donc ils ont essayé de faire venir des cadres, d'ailleurs qui n'étaient pas forcément encartés au FN, mais qui étaient sympathisants. Et donc ils ont essayé dans un premier temps de montrer patte blanche vis-à-vis de certaines associations. Et donc c'est pour ça que dans un premier temps, ils ne se sont pas attaqués tout de suite à l'escapade, même si je pense qu'ils ont toujours voulu faire sauter l'escapade. Et ils se sont attaqués aux associations de résistance, donc la Ligue des droits de l'homme en première, mais aussi le Secours populaire, parce que le Secours populaire organisait des distributions de vêtements aux migrants de Calais, à l'époque de la jungle de Calais. Et donc le Front National a fait adopter au conseil municipal une charte anti-migrants, disant que la municipalité ne collaborait avec aucune association venant en aide aux migrants. Pour moi, c'était une charte de la honte. Et donc, le fait qu'elle soit votée par le conseil municipal de ma ville, une ville qui a accueilli des enfants de républicains espagnols pendant la guerre d'Espagne, pour moi, c'est vraiment une tâche indélébile sur ce qui a été l'histoire de cette ville, une ville de fraternité, de solidarité. C'est ça que le Front National a toujours voulu remettre en cause. Leur gestion, pour moi, a toujours été idéologique, toujours. En 2015, par exemple, ils installent une crèche de Noël dans le hall de l'hôtel de ville d'Hénin-Beaumont, comme Robert Ménard, comme Laurent Wauquiez. C'est une gestion idéologique. Et quel est le discours quand on installe une crèche de Noël dans le hall de l'hôtel de ville? Le discours, c'est de dire ici, nous sommes ici chez nous, en France, dans une terre chrétienne, et les musulmans n'ont pas leur place ici. C'est moi qui ai fait un recours contre la présence de cette crèche de Noël dans le hall de l'hôtel de ville. À titre personnel, je l'ai fait avec mes convictions de militant de la Ligue des droits de l'homme. J'ai fait ce recours contre la crèche de Noël dans le hall de l'hôtel de ville et je les ai battus. Je les ai battus au tribunal administratif et je les ai battus à la cour administrative d'appel. Et ils m'en ont voulu à mort. Sur la page Facebook de Cibrivois, j'ai été insulté, harcelé, menacé de mort. On m'a traité de trou du cul, de complice des envahisseurs muses, de traître à la France, de Judas qu'il faudrait fusiller ou pendre. C'était d'une violence sans nom. Et ça, ce sont les méthodes du Front National. Et ça dit bien, quand Cibrivois dit « Mais non, la crèche de Noël, c'était pour faire plaisir aux enfants. » Mais non.
On est où, là, Inès Taouit?
L'hôtel de ville, à proximité.
Il ressemble à un gros bonbon, on dirait. Il a été refait il n'y a pas longtemps.
Il y a un véhicule. Oui.
Ça fait un peu gros bonbon quand même, non?
Ouais, bon.
C'est pas là-dessus qu'il faut que je sollicite la conseillère d'opposition représentant le Parti Socialiste.
Ça fait un peu Disneyland, c'est vrai. C'est vrai que là, on voit les quatre mineurs qui soutiennent un peu le fronton et qui sont tout blancs, sauf que des mineurs sont pas blancs, en principe. Alors, les gens sont contents de l'hôtel de ville. Mais c'est vrai qu'il y a une petite critique à Hénin Beaumont qui dit « C'est pas très naturel, c'est fort blanc. » Mais bon, je trouve qu'on a un bel hôtel de ville.
Vous, jeune conseillère d'opposition dans cette liste qui porte le joli nom de Ozon pour Hénin Beaumont, vous avez envie de dire quoi sur, justement, ce que représente cette ville?
Alors, jeune conseillère, effectivement, ça fait... j'ai 31 ans, je ne suis plus toute jeune, mais jeune conseillère, parce que je suis élue depuis 2020 sur une liste du Long de la Gauche avec Marine Tondelier, c'est elle qui a mené la liste. Et donc, je suis présidente aujourd'hui du groupe d'opposition, qui est un groupe transpartisan. Et effectivement, pour moi, ma ville, ça représente beaucoup, parce que j'y suis née. Donc, j'adore ma ville, j'ai toujours voulu y rester, que je sois élue ou pas, de toute façon, j'y resterai. Donc, c'est chez moi, ici, avant d'être chez eux. Et... ça représente beaucoup parce que c'est une ville qui a longtemps été un fleuron dans le bassin minier, en matière industrielle, il y avait pas mal d'usines, aussi textiles, on l'oublie. Et donc petit à petit, tout a foutu le camp, comme on dit. Et il y a certaines difficultés économiques qui ont persisté. Et donc le RN, plus sans parler des affaires, de l'affaire Gérard d'Allongeville, il y a eu quand même 18 chefs d'inculpation.
Sur le maire PS qui a laissé sa ville à sec.
Oui. Alors il était socialiste, il a été exclu du PS. Et c'est le seul maire, quand même, pour l'anecdote, le seul maire qui a été révoqué par le président de la République sous la Ve République. Donc c'est assez exceptionnel. Et donc le RN a surfé là-dessus.
D'Allongeville, c'est le dernier maire socialiste de Hénin-Beaumont qui a été convaincu de magouille pas possible. Et ça, c'est le terreau du RN, parce que c'était pas béni pour eux. Ils sont arrivés en disant « Regardez, les socialistes, c'est des ripoux ». Et donc, nous, on va nettoyer la ville de tous ces hommes et femmes politiques qui sont des salopards. Et voilà, ils l'ont eu belle. Parce que ici, tu peux pas, dans un territoire comme celui d'Hénin-Beaumont, qui est quand même une ville qui a été bâtie sur la migration polonaise, la migration maghrébine, la migration portugaise, italienne, etc., etc. Tu peux pas jouer sur les mêmes cordes de l'étranger, c'est un salopard.
Et malheureusement, aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que beaucoup disent que c'est le fief de Marine Le Pen, le fief du RN. En vérité, vous savez, les gens, ils votent, ils ont voté avant tout pour Steve Briouat. Parce que franchement, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est quelqu'un qui a fait du terrain. Il a arraché le macadam pendant 20 ans, il était là, faut le reconnaître. Et donc les gens ont avant tout voté pour Steve Briouat que pour son parti. Il a fait du travail de terrain. Les gens sont globalement, c'est une réalité, satisfaits de ce qu'il fait en tant que maire, mais en fait, c'est le travail classique des 36 000 autres maires de France. Le boulot est fait.
Et les habitants l'apprécient. 74% d'entre eux a voté dès le premier tour aux dernières élections municipales.
Alors, c'est une réalité, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 60% d'abstention. Bonjour.
Tout le monde vous connaît, évidemment. Hein.
La plupart, ouais.
Alors, quelle politique culturelle ?
Ah, la politique culturelle, ils veulent pas que les gens pensent, parce que la culture, c'est aussi ça, c'est amener les gens vers quelque chose, c'est pas que du divertissement. Et eux font pas la différence entre culture et divertissement, c'est un peu ça le problème. C'est que pour eux, tout est divertissement, et c'est fort regrettable, et je pense qu'ils vont en faire un lieu de divertissement. Je suis pas contre, hein. Il en faut, c'est bien.
Le marché de Noël est magnifique ici. À nouveau des photos sur le Facebook qui est très suivi de la mairie où l'on voit Steve Briouat dans un char de Père Noël avec le Père Noël, avec Marine Le Pen aussi et souriant derrière une mairie qui n'arbore même pas l'horrible drapeau européen.
C'est vrai qu'il n'y a pas le drapeau européen. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis trois grands drapeaux français. C'est très bien, moi je suis patriote, hein, mais marché de Noël, il est très bien. Il est très beau, comme dans d'autres villes. Hein.
Et vous êtes obligé de mettre les formes tout de même. Parce que la colère, il faut la laisser à d'autres. Parce que quand on est en responsabilité politique ici, qu'on n'est que trois élus qui luttent vaillamment avec Marine Tondelier, avec Jenny Ranieri, on a évidemment tous les focus sur soi. Même si on essaye de vous bâillonner, de vous maltraiter d'une certaine manière. Il y a une maltraitance ?
Oh, bien sûr qu'il y a une maltraitance. Je trouve surtout Marine Tondelier, elle se prend, mais des claques en conseil municipal, mais c'est vraiment scandaleux la manière comment le maire notamment la traite, des bruits d'animaux qui ont déjà été diffusés en conseil municipal. Elle s'est déjà fait traiter de folle, d'hystérique, on lui coupe son micro. Tout ce qu'on dit, ça peut être retourné contre nous.
Tout est manipulé, c'est harassant en fait. En fait, pour survivre dans cette ville, pour survivre à eux qui sont fous, il faut se protéger en fait, il faut se blinder. Ils vous tiennent en harcèlement moral en réalité.
Marine Tondelier, chef de file de la liste Osons pour Hénin-Beaumont.
Ils veulent vous faire plier. Moi j'habite à 200 mètres de la mairie. Dans chaque journal municipal, depuis 10 ans, vous avez 120 numéros. Je me fais insulter. Là, un jour, j'habite pas Hénin, mais j'habite à Paris. Il y a même quelqu'un de ma rue chez qui je passe à chaque fois que je conduis mon fils à l'école et qui me dit « Ah bah vous êtes revenu habiter là ». Je dis « Mais madame, je suis votre voisine ». Elle me dit « Bah oui, je sais, mais j'ai vu dans le journal que vous habitiez plus là ». Je dis « Bah oui, mais c'est le journal du maire ». Elle fait « Bah oui, mais c'est écrit ». J'ai eu dans ma boîte aux lettres. Et donc on se rend compte que la post-vérité, ça marche quoi. Et donc ils se sont permis d'écrire tout et n'importe quoi sur moi pendant 10 ans. Ils ont vraiment voulu me faire plier, me faire craquer, me faire tout ce que vous voulez. Et donc moi j'ai décidé de tenir par principe, mais en m'appliquant quelques petites mesures de salubrité publique mentale quoi. D'ailleurs, ils m'ont appris ce qu'aucun coach n'aurait pu m'apprendre. Parce que, bah, en fait, on apprend juste à survivre sur le tas. On s'invente des propres méthodes, que ce soit de riposte en conseil ou de respiration pour tenir. Parce que des fois, il faut tenir 6 heures à se faire insulter. Enfin, c'est horrible. Et puis, j'ai appris, par exemple, que quand il criait, que je recriais, qu'il recriait, que je recriais, qu'il coupait mon micro, que du coup, je devais crier encore plus fort et qu'il finissait par dire que j'étais hystérique, ça, par exemple, en fait, on peut le faire. Mais on marque jamais de points. D'ailleurs, moi, je dis souvent, quand on fait un combat debout avec un cochon, en fait, la différence, c'est que lui, il aime ça. Et même si on gagne, on passe pas un bon moment. Et en fait, je me suis dit, à un moment, est-ce qu'on a vraiment envie de devenir plus fort qu'eux à leur propre jeu, quoi ? Et sur leur propre terrain, je ne pense pas.
Quant à la presse, pour eux, ce sont évidemment Karamassi, on les appelle les gauchistes.
Ouais, c'est ça, même les merdias. Donc, voilà, quand tu traites les journalistes de merdias, tu sais à peu près ce que ça peut donner, quoi. C'est tout se justifie comme ça. C'est-à-dire que dire une saloperie, ça dure quelques secondes, et la déconstruire, il faut des semaines et des semaines pour déconstruire la saloperie qui a été envoyée. Et là, au niveau du théâtre, ça a été terrible, parce que dire aux gens de Hénin Beaumont, regardez, il n'y a personne qui vient au théâtre, c'est facile à faire. Hein. Et après, expliquer que si les gens ne viennent plus au théâtre, c'est qu'il n'y a plus de médiateurs culturels parce qu'on les a virés les uns après les autres, qu'on a donné de moins en moins de moyens et qu'on a mis des personnes qui n'étaient pas formées à leur place, là, c'est plus simple. Et c'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été miné pendant des mois, des années. Au bout de 4 directeurs, ça a fini par lâcher, quoi.
Ils avaient un calendrier bien préparé parce qu'ils ne veulent pas d'espace de liberté dans cette ville, d'espace qu'ils ne contrôlent pas, d'une scène dont ils ne maîtrisent pas la programmation. Et la preuve qu'ils ont tout déroulé, c'est que donc, ça se termine avec cette convention qui s'arrête fin janvier. Et paraît le lundi, comme chaque début de mois, le journal municipal. C'est toujours une anthologie de journal municipal ici, ce journal qui est écrit par la mairie. Et donc, il y avait toute une page pour annoncer la nouvelle programmation de l'escapade, avec notamment pour la journée... Alors, comment ils ont écrit ? Parce que normalement, c'est la journée internationale des droits de la femme. Là, ils ont écrit la journée de la femme. Ils ont programmé un hommage à Brigitte Bardot.
Mais il y a une place, Brigitte Bardot, à Hénin Beaumont.
Un boulevard. C'est une multirécidiviste condamnée de multiples fois pour un jour racial. Normalement, les rues, c'est pour des gens qui sont des exemples. Tout ça dit n'importe quoi, puisqu'il y avait dans cette rue la maison Anne Frank, dans laquelle ils ont remis l'école de musique. Donc maintenant, moi, mon fils, par exemple, va à l'école musique, c'est écrit. École de musique Michel Polnareff, maison Anne Frank, boulevard Brigitte Bardot. Tout ça est quand même assez invraisemblable. Qu'en fait, il faut savoir que Brigitte Bardot, il n'y en a que dans les villes et Rennes. Je souligne d'ailleurs que ce qui m'étonne un peu, c'est qu'elle a fait un tract pour soutenir Sivriois la dernière journée de campagne. L'élection était le dimanche. Le vendredi, dans toutes les poids d'Hénin Beaumont, arrive un tract. Moi, j'avais été soutenue par Corinne Maziero et par Danny Boone. Et donc, je ne sais pas, ça a dû les énerver. Donc, ils ont dit, Brigitte, fais-nous un tract. Et donc, elle fait ce tract où elle écrit « Cher Steve, Briois » avec un petit cœur sur le « i » manuscrit. Et c'est cette lettre d'amour de Brigitte Bardot à Steve Briois qui est mise dans toutes les boîtes aux lettres d'Hénin Beaumont et qui est imprimée en 4x3 dans l'escalier du hall d'Hénin Beaumont pour que tout le monde voit bien que Brigitte Bardot aime Steve Briois. Bon, donc je dis, c'est quand même un peu bizarre. Est-ce que le fait de lui donner une rue, là, quelques mois après, a un lien avec le fait que le dernier jour avant les municipales, elle avait fait un tract de soutien? Pas du tout. Donc voilà comment ça se passe, mais dans un conseil municipal où, là, je vous raconte en blague, mais la vérité, c'est que l'autre, il fait que hurler, le public me siffle, enfin, c'est un sketch, quoi. Un sketch. C'est tout le temps comme ça.
Là.
Derrière moi, c'est la bibliothèque du Nain, la médiathèque.
Là, il y a des travaux.
L'escapade.
Ça te dit quelque chose, l'escapade ?
Si, j'ai déjà été plusieurs fois. J'ai déjà été voir plusieurs scènes de théâtre avec le collège ou tout ça au lycée.
Et d'accord, en ce moment, il se passe quoi à l'escapade ?
En ce moment, on n'a aucune idée.
Marjorie, il ne sait pas tout à fait ce qui se passe. Est-ce que les gens d'ici, des Nains Beaumont, le savent? Parce qu'on en parle un peu partout, quand même, de ce qui se passe.
Ils ne sont pas tous informés. Hein. Attends, je te coupe le micro. En fait, ils sont en train de regarder.
Ils sont en train de regarder quoi?
Pas mes ex-collègues. Et c'est pas grave, ça ne pose pas de problème, tu crois?
Pour toi?
Ouais. Enfin, moi, je m'en fiche, je ne travaille plus là. Mais je voulais juste pour te dire, en fait, ils sont tous dans le bâtiment.
tous les anciens collègues de l'escapade sont dans le bâtiment, le bâtiment qui est en train de se faire une beauté. Si on allait les voir.
Ah oui, rentrer, ça, ils vont pas nous laisser rentrer, mais...
Mais c'est pas moi que ça peut gêner, Marjorie, c'est toi qui y as travaillé.
Oui, je sais, maintenant, donc ça me gêne pas.
Excuse-moi. C'est sûr.
Oui, c'est ceux qui portent plainte facilement, c'est pour ça, en fait. Tu
mais qui portent plainte, c'est-à-dire
De se dire que je vais raconter des choses, ou voilà, juste ça.
Mais ça doit être quand même curieux pour toi, Marjorie, de te retrouver devant ce bâtiment qui t'a abrité l'année dernière, où tu accueillais le public, où tu avais les relations aussi avec les acteurs, tu les accueillais aussi. Et puis il y avait une équipe, il y avait un trouble qui s'installait, une tension extrême. Quelle ambiance !
On ne pouvait pas parler librement.
Donc, on apprenait à chuchoter.
On apprenait à chuchoter. À chuchoter, à se tourner tout le temps, à regarder sur les côtés c'est monsieur le directeur de la culture qui a dû être contacté.
Contacté pour dire qu'on est là.
Voilà, oui, pour dire qu'on est là.
Mais il ne va pas y avoir d'intimidation, de menaces, de choses qui vont être reprochées, qui vont être trop dures à porter après dans la communauté ici, une fois qu'on aura su que tu auras parlé à Blast.
Ben, je ne sais pas. Peut-être que si. Parce que... On n'a pas le droit de s'exprimer comme on veut. Ben, on verra. Hein? Mais, on n'a pas le droit de s'exprimer comme on veut, puisqu'à l'intérieur, il fallait toujours chuchoter. Donc, c'est qu'on n'a pas le droit. Parce que les journalistes n'ont pas le droit de rentrer. Non.
En tant qu'opposant, on est un peu contraint de mettre les formes, de faire attention à tout ce qu'on dit et parfois même de s'auto-censurer, c'est une réalité. Hein. Eux, et c'est le propre de l'extrême droite, c'est qu'ils s'en foutent de la vérité, ça les intéresse pas la vérité parce qu'ils ont leur propre vérité, c'est des populistes. Hein. À partir du moment où ils sont légitimes de manière populaire, c'est-à-dire qu'on a voté pour eux, bah, ils ont raison. Et si ceux qui ont voté pour nous, bah, ils ont eu tort, et puis on va leur prouver combien vous êtes des extrémistes, des islamo-gauchistes, et j'en passe, des trucs du délire. Et donc, ils déconstruisent la vérité. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas la Voix du Nord, ils n'aiment pas les médias, ils n'aiment pas la presse. Parce que...
Les merdias, pardon.
Les merdias, ouais, ils les appellent exactement comme ça, qui sont au service de l'islamo-gauchisme, enfin vraiment du complotisme pur.
Avec une utilisation abusive, presque risible, du droit de réponse, légalement. Il en est à 141 droits de réponse aujourd'hui à la Voix du Nord.
Mais c'est volontaire, en fait. C'est une stratégie aussi d'intimidation. Les opposants, il y a une stratégie d'épuisement financier. Même s'ils savent qu'ils vont perdre, mais ils s'en foutent, ils ont la protection fonctionnelle qui leur permet d'avoir les frais d'avocat payés. Donc ils vont attaquer leur opposant pour un oui, pour un non, parce qu'ils vont dire un truc sur les réseaux sociaux. Bah forcément, derrière, il faut payer, c'est une charge mentale. Allez expliquer ça à votre conjoint ou votre conjointe que vous allez payer 3000 euros. Enfin, c'est vraiment... tout est mêlé, en fait. C'est pas la vie politique, la vie professionnelle, la vie personnelle, non. Ils vont aller vraiment tout fouiller. Et pour eux, voilà, tous les coups sont permis. Et vu qu'ils sont très bons en communication, parce qu'ils réécrivent à chaque fois l'histoire, ils déconstruisent la réalité et ils construisent une autre vérité. Et donc, bah, les gens, parfois, moi, une fois, il y en a un qui m'a dit « Ouais, mais Marine Le Pen, elle est fille d'ouvrier, je sais comment ?» Donc vous imaginez l'image qu'ils lui ont construite ici, d'une femme populaire, pas une bourgeoise du tout, alors qu'elle est avocate, elle est fille quand même d'un héritier, Jean-Marie Le Pen, héritier de Lambert. Et donc, ils excellent dans ce domaine, et c'est pour ça que vous devez être toujours en proximité, faire du terrain constamment pour rétablir la vérité. C'est vraiment un travail de dentelle. Et les gens, alors il y en a qui savent, mais il y en a qui cherchent pas trop à comprendre. Et donc, vu que la com, elle est redoutable, effectivement, ils y croient. Et c'est ça qui est inquiétant dans l'extrême droite. Et on voit ce qui se passe aux États-Unis avec Trump. Et c'est un peu la même histoire. Et c'est ça qui est le plus inquiétant, quelque part.
Dans une sorte de post-vérité. Ici, on se raconte une histoire qui doit ressembler à celle qu'on écrit.
Tout à fait, c'est l'ère de la post-vérité qui se décline dans le journal municipal, par exemple. Il y a quelques semaines à peine, lors de la cérémonie des vœux du maire, Sioux-Rivoire accueille toute la population dans la salle de l'espace de l'abbaye. Et donc, mes amis de l'opposition municipale distribuent un tract sur la situation de l'escapade à l'entrée du parking de cette salle des fêtes. Et quelques jours à peine plus tard, on découvre sur la page Facebook de la municipalité un communiqué incendiaire disant que les habitants ont été agressés par les opposants qui distribuent le tract. Enfin, il n'y a eu aucune agression d'aucune sorte. Hein. On est dans de la pure invention et des fake news permanentes. Mais quand, bulletin municipal après bulletin municipal, on lit que l'escapade était l'objet d'un putsch, d'une bande de gauchistes et que la municipalité va reprendre le lieu et en faire une salle de spectacle populaire, peut-être que ce discours, finalement, va s'ancrer dans les esprits. Et moi j'ai peur de ça. Heureusement que les médias ont dit ici la vérité, mais Sioux-Rivoire et son équipe jouent sur la victimisation en disant « Ouais, regardez tout ce qu'on fait, on améliore la ville, on a planté des fleurs, on fait un marché de Noël, et les médias nous critiquent surtout. On est victimisé parce qu'on est du RN, et à travers nous, c'est les habitants qui sont victimisés. » Alors, ils se confondent, en fait, avec les habitants. Et je pense que ça marche un petit peu quand même. Donc, moi, c'est mon inquiétude. Et c'est un combat de longue haleine. C'est un travail de longue haleine parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de recul idéologique, une forme de banalisation des idées de repli, de fermeture, d'autoritarisme, de xénophobie. C'est les idées, finalement, de CNews, de Bolloré, c'est les idées de Meloni, de l'AFD ou de Trump. Il y a un climat malsain sur la planète. Et ici, à Hénin-Beaumont, on est quelque part dans l'œil du cyclone au niveau municipal. Mais il faut se battre à la fois contre l'extrême droite locale, mais aussi ce qui permet aux gens de croire ces idées-là.
À présent, mesdames et messieurs, je voudrais vous parler d'un homme. Il est présent dans la salle, mais il ne sait pas qu'il va être mis à l'honneur. Après avoir donné plus de 30 ans de sa vie à une association, il en a été viré dans des conditions indignes, insupportables, par des gens extérieurs à la ville, venus exclusivement pour nuire. Harcelé durant des mois, traîné dans la boue par la Voix du Nord, qui a délibérément feuilletonné une affaire qui n'en était pas une, 17 articles putaclic en 6 mois. C'est l'honneur d'un homme qui a été livré aux chiens, au mépris de son engagement et de son dévouement, par des journalistes, par l'opposition municipale, Gianni Ranieri en tête, par des perturbateurs professionnels jusqu'à l'entrée de cette salle, ces gens toujours indignes et pitoyables, qui n'ont eu aucun mot pour les agents municipaux humiliés et harcelés pendant des mois. Tout ça n'a été fait que pour tenter d'atteindre la municipalité, et ceci évidemment avec l'argent du contribuable. Mesdames et messieurs, nous allons réparer une injustice. Je vous demande d'applaudir Jean-Luc Dubreuc, président historique de l'Escapade, que j'invite à me rejoindre sur scène avec son épouse Béatrice.
Dans cette triste saga de l'Escapade, l'indéboulonnable président de l'association, Jean-Luc Dubreuc, incarne le rôle du traître, celui qui a signé la convention favorable à la mairie sans consulter les membres du CA, ce qui lui a valu son exclusion à l'époque. Dans ce climat délétère, de tensions exacerbées, la mairie jouera sa partition de pression jusqu'au bout.
Mon cher Jean-Luc, j'ai une surprise, puisque j'ai l'honneur de te remettre, au nom de Monsieur le maire et des habitants de notre ville, les nouvelles clés du théâtre municipal de l'Escapade, à partir duquel... tu contribueras dès demain matin, si tu le souhaites, à la programmation du théâtre municipal de l'Escapade.
C'est Christopher Tsurek, sénateur RN du Pas-de-Calais, qui fait monter sur scène l'ancien président destitué par l'ancienne équipe. Il est aujourd'hui redevenu celui qui va présider à la destinée de la salle. Ce théâtre continuera à se nommer l'Escapade, puisque ses murs appartiennent à la mairie, qui a même eu le soin de déposer ce nom.
En fait, juste avant qu'on rende les clés, il y a eu une dernière programmation.
On retrouve Marjorie, qui nous rappelle l'ambiance qui régnait les derniers mois précédant cette prise de pouvoir et qui valut au directeur de la salle à l'époque, responsable de la programmation, de se mettre en arrêt maladie.
Normalement, je pense que j'ai le droit de m'exprimer comme je le souhaite. Moi, je sais que quand j'étais à l'accueil et qu'il y avait des mouvements de grève...
Il y a eu 3 piquets de grève au mois d'octobre dernier.
Ben, régulièrement, certaines personnes se rapprochaient de moi pour voir ce que j'allais dire... pour écouter ce que je disais, en fait. C'était marrant, j'avais un service d'ordre autour de moi. Pas marrant, c'est de l'ironie, hein, parce que Moi, peut-être que j'aurais peut-être un... Après tout, mais je leur dois plus rien, puisque je ne travaille plus là. Pour l'instant, j'ai plus d'emploi.
Oui, parce que cet emploi, au sein de l'association L'Escapade, évidemment, tu l'as perdu.
Oui, je l'ai perdu. Et maintenant, le combat... Enfin, j'appelle ça encore un combat, hein, parce qu'en fait, ça en est un, puisqu'on n'a plus de lieu. Donc, c'est un combat pour trouver d'autres structures qui veuillent... Je dis toujours « nous », hein, parce que, bon, voilà, je m'estime toujours faire partie de l'escapade. Pas du théâtre de l'escapade, l'escapade. Et de trouver d'autres lieux qui voudront accepter les spectacles, accepter... pouvoir permettre au public de venir voir ses pièces. Donc... Mais n'en ont pas fini, entre guillemets, avec nous, puisqu'on va continuer ailleurs, hors les murs. On va continuer hors les murs.
J'aime bien Jean-Yves Coffre quand il y a les portes qui s'ouvrent.
Bonjour, ça va?
Et vous?
Pas mal, oui, merci.
Il paraît que ça allait pas si bien il y a peu de temps.
C'est vrai que ça n'allait pas si bien, mais bon, il faut toujours aller mieux.
Oui, on ne va pas faire cliniquement l'exposé de ce qu'est un burn-out, mais il a quand même fallu des causes pour le provoquer. Question au directeur de l'association L'Escapade.
Il faut savoir des fois encaisser et puis pour mieux rebondir, quoi, en connaissant ses capacités et puis ses valeurs.
Donc aujourd'hui ?
Donc aujourd'hui, c'est vrai que l'escapade, l'association, on a perdu le lieu qui était un théâtre symbolique, hein, dans le bassin minier. Hein. Certaines personnes ont été là depuis plus de 20 ans. Petit à petit, en fait, on nous a démoli un petit peu de l'intérieur, quoi. On nous a injecté une tumeur, en fait, qui a grossi, et puis qui a fini par exploser. Ma plus proche collaboratrice, au bout de 20 ans, a démissionné au mois de mai. Ma médiatrice, qu'on avait formée pendant 3 ans, qui était hyper impliquée, n'a pas voulu renouveler son contrat. Au mois de juin, pendant que j'étais pas là, on a demandé mon licenciement pendant que j'étais au Festival d'Avignon, sans jamais me convoquer, sans jamais me parler. C'est là que le burn-out intervient. Je me suis dit non, je suis incapable de retourner, en fait, de passer les murs de l'escapade. Si on n'est pas d'accord, il n'y a pas de discussion possible. Moi, j'ai essayé de leur expliquer comment fonctionnait une structure. J'expliquais aussi que dans les théâtres normaux, on ne pouvait pas fonctionner avec une municipalité qui pouvait prendre la salle pour faire un spectacle. J'avais vraiment l'impression de travailler avec un pistolet sur la tempe, en fait, à la fin. Et on me disait, mais c'est dans la convention. Et l'année dernière, donc en janvier, une nouvelle convention a été signée, sans être lue, encore une fois, par le président. Et là encore, il y avait encore beaucoup plus de contraintes. C'est-à-dire que... Le théâtre de l'escapade devenait bureau centralisateur pour les élections municipales. Comme quoi, vous voyez, ils prenaient ce théâtre pour un bâtiment municipal, quoi, une salle des fêtes. Et puis surtout, sur la fin, en dernier paragraphe, c'était bien écrit, la mairie peut reprendre le théâtre de l'escapade après envoi d'une lettre commandée sous 60 jours. Et là, évidemment, je me suis... insurgé contre ça, j'ai dit, mais 60 jours, vous pouvez revenir quand vous voulez. Enfin, moi, comment je fais une programmation jusqu'à juin 25? Comment je fais si dans 60 jours, vous pouvez reprendre le théâtre pour je ne sais quoi, en fait? Donc, c'est là qu'on m'a dit, mais c'est comme ça, voilà, tu n'as rien à dire.
De politique fiction, le dernier acte de l'association L'Escapade, de ce théâtre, qu'est-ce que ça sera, ou alors qu'est-ce que vous voudriez que ça soit, Inès Taouri?
Alors L'Escapade va continuer hors les murs, puisqu'elle a le soutien de plein de partenaires politiques, de droite comme de gauche.
Et donc, ils vont continuer hors les murs parce qu'ils ont des partenariats avec des villes comme Méricourt, Carvin, Montigny-en-Goële, que vous ne connaissez pas certainement, mais qui sont là, à proximité, limitrophes ou presque à Hénin-Beaumont. Mais ça ne sera pas du tout la même chose, un peu en quelque part sans domicile fixe.
Oui, mais ils sont là où il y a le public qui est aussi.
Exactement. C'est ce que je leur ai dit lors de leur réunion publique. Je leur ai dit, attention, vous êtes les héritiers de l'escapade. Il y a un patrimoine immatériel quelque part et c'est vous qui en êtes héritier, c'est pas eux. Quand on dit escapade, c'est vous. Moi, j'ai fait 6 ans de théâtre à l'escapade quand j'étais petite.
C'était quoi votre premier rôle ?
Ah, j'étais une bourgeoise. Alors que je suis issue d'un milieu très populaire. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant à l'escapade. Ma mère, elle a dit, bon allez, on va la mettre à l'escapade. C'est une asso qui est pas chère. C'est chez nous, on connaît depuis longtemps. On va pas s'embêter, on va la mettre là. Ça va la décoiffer la petite. Et quelque part, 6 ans après, franchement, ça m'a beaucoup aidée. La preuve, aujourd'hui, je suis conseillère municipale. Je vous parle et ça n'aurait jamais été possible sans l'escapade.
Devenir cette programmation aujourd'hui, les premiers indices qu'on a ne sont pas forcément très reluisants au niveau de la qualité, de l'exigence, même s'il y a une rue Brigitte Bardot ici, on n'était pas obligé d'avoir un premier spectacle programmé avec la nouvelle municipalité sur Brigitte Bardot.
Oui, bah en fait c'est ça. Eux, ils voient la culture comme ça. Quand ils sont arrivés en 2014, c'était clair, ils voulaient des spectacles French Cancan. En gros, la culture du « on déconnecte son cerveau » et du divertissement. C'est bien la culture du divertissement, mais à petite dose. Mais quand je vais au théâtre, j'ai parfois aussi envie de réfléchir. Le dernier spectacle qui a été joué par l'escapade, mais à Carvin, donc, puisqu'on a été remercié de notre lieu, c'était Les Voiles écarlates. Les Voiles écarlates qui était justement un spectacle de Stéphane Titelin sur l'engagement, et notamment l'engagement de son père communiste. Et j'ai réfléchi, je me suis identifié au personnage qui n'en est pas vraiment un, parce qu'en fait c'est un peu une autobiographie. Et je me dis, ça fait réfléchir. Alors ça fait réfléchir sur l'engagement, ça fait réfléchir sur justement le désengagement, sur les raisons de l'engagement de nos parents, nos grands-parents à l'époque. Et ça, c'est intéressant. La vie de Brigitte Bardot, qu'est-ce que ça va nous faire, sur quoi ça va nous faire réfléchir ? Sur le fait qu'elle a été condamnée pour avoir été raciste ? Sur le fait qu'elle a encore fait une tribune pour dire qu'il y a trop d'islamisme en France et que le maire d'Hénin-Beaumont l'a partagé sur sa page Facebook. Ça va faire réfléchir qui ? Ça va faire réfléchir quoi ? Et le problème qui se pose, c'est qu'ils sont en train de nous vendre du rêve en disant « Mais oui, vous allez voir, avec nous, ça va être plein à craquer. » Ben oui, ça va être plein à craquer parce que les spectacles, pour l'instant, sont gratuits. On dit aux gens qu'on va venir les chercher en bus, donc ils n'ont même pas besoin de réfléchir à comment ils vont venir. Et on leur dit qu'après, il y aura un goûter. Ça, c'est pas de la culture, c'est de la communication politique en disant « Regardez, nous, on remplit l'escapade là où l'association n'était pas capable de le faire. » Je pense que la culture que veut proposer la mairie d'Hénin-Beaumont, c'est une culture politique. S'ils proposent comme premier spectacle la vie de Brigitte Bardot après avoir partagé un communiqué de presse de Brigitte Bardot d'extrême droite, c'est qu'ils veulent faire de la politique dans ce lieu. Nous, il y a eu des spectacles politiques, mais les spectacles politiques sont proposés par les artistes. Par exemple, Les Voiles écarlates, c'était un spectacle politique sur l'engagement politique, notamment communiste, mais ce n'est pas nous qui revendiquions ce message politique, ce message porteur de cette vision politique. À l'escapade, on ne fait pas de politique. S'il y a des spectacles politiques, c'est parce que les artistes ont proposé des spectacles de qualité et qu'on s'est dit que c'était bien qu'ils soient joués.
Il n'y a pas un moment où on se dit que dans ce Landerneau, dans cette bulle, dans cette post-vérité, il faut peut-être arrêter, non pas le combat, mais passer la main, aller ailleurs.
Partir, jamais. C'est là que j'ai grandi et c'est une vraie force. C'est un pôle de stabilité très puissant dans ma vie. Donc moi, c'est comme ça, c'est les mines, les corons, les mineurs de fond. Il y a au bout de la rue, l'endroit où a commencé la grande grève des mineurs de 1941, le plus grand geste de résistance à l'opposant allemand, 800 000 tonnes de charbon perdu parce que pendant des jours et des jours, tout le bassin minier s'est embrasé en partant de la fosse du Dahomey juste au bout de ma rue. Qu'il y a aussi cette ligne de front à la Première Guerre mondiale, hein, où il y a des... Vous savez, ici, on peut toujours pas boire l'eau du robinet. C'est lourd ce que je vous raconte, mais c'est constitutif. On ne pouvait pas boire du robinet quand vous êtes enceinte parce qu'il y a des perchlorates. Et les perchlorates, c'est tous les résidus des tonnes et des tonnes d'obus qui se désagrègent encore dans le sol. C'est des histoires comme ça tout le temps. Donc ouais, c'est lourd. Les mines, la guerre, c'est lourd. Mais c'est chez nous. Voilà, la rue de l'Abbaye, la chapelle Saint-Gève que vous voyez là, que j'ai vue tous les soirs en m'endormant pendant les 30 premières années de ma vie. Et donc je ne retrouvais ça nulle part ailleurs en France. Voilà.
Des décennies d'histoire transportées à bout de bras. Difficile pour ces artistes de dire au revoir au théâtre de l'Escapade.
C'est un crève-cœur pour tout le monde. Moi, je fréquente ce lieu depuis que j'ai 16 ans, j'en ai bientôt 60. C'est le lieu historique de la diffusion de la culture, on va dire. Mais c'est plus que ça, c'est pas juste faire des spectacles, tout ça. C'est l'éducation populaire.
Et des fois, on se dit, mais journaliste, hein, vous venez quand c'est la merde, quand c'est en train de se casser la gueule, et on aurait bien aimé que vous veniez pour montrer au FN, touche pas à l'Escapade, c'est quand même vachement bien ce qu'ils sont en train de faire. Et je trouve que c'est un peu rageant. Et là, ça devient vendeur parce que le théâtre a été chopé par la mairie. Bon, il faudrait qu'ils continuent à se dire, ces vendeurs, de voir comment des habitants ils sont en train de se dire, l'Escapade, c'est à nous, et on va continuer. On va travailler autrement, on va faire du théâtre en appartement, on va aller travailler ailleurs, on a une solidarité des villes. Enfin, en 24 heures, je suis sûr que la mairie RN était sur le cul. En 24 heures, il y a 30 gus, plein de gens qui sont pointés. Et on a déménagé un lieu dans lequel il y avait 50 ans de vie. En 24 heures, on a tout déménagé. C'était réjouissant de voir cette trentaine de personnes prendre projecteur, descendre dans la cave, aller chercher les projos, démonter les systèmes. Parce que c'est à nous. Parce qu'on a réagi très simplement en disant à un huissier de justice, qu'est-ce qu'on peut prendre? Il nous a répondu, il n'y a pas eu d'état des lieux fait à l'entrée, c'est donc que tout ce qui est à l'intérieur est à vous. Point barre. On a tout sorti. Et c'était jouissif quelque part.
Je trouve que c'est une belle fin, en vrai, de finir par ce pied de nez.
Aurore Froissart, documentariste.
Et par la suite aussi, qui est en train de se construire. Enfin, moi, j'ai aussi assisté au premier spectacle hors les murs de l'Escapade, qui était Les Voiles écarlates, donc mis en scène par le même Stéphane autour de cette table. Et en fait, ça, c'est déjà un renouveau, quoi. Il y a les pistes qui sont posées, de voir un spectacle qui, normalement, devait avoir lieu à l'Escapade, qui, finalement, se tient quand même, malgré la brutalité avec laquelle on a été dégagé le mois dernier, et devant aussi une salle pleine de collégiens du coin qui, donc, pouvaient quand même découvrir ce spectacle-là, avec un propos fort, avec une mise en scène qui était vachement audacieuse et vachement stylée aussi. Elle est là, un petit peu, la fin. Dans justement ce renouveau qu'on essaye d'impulser. C'est un peu comme des brins d'herbe qui arrivent à percer le bitume qu'on a mis par-dessus. De vouloir malgré tout continuer à parler, même dans une adversité qui est assez vénère, quoi. Parce que moi, c'est un peu un truc, je sais pas si vous aviez remarqué ça, mais que ce soit à l'Escapade ou dans la rue, il y a certains mots, il y a certains sujets de conversation qu'on n'a pas le droit de prononcer à voix haute. En fait, on se met à chuchoter dès lors qu'il faut parler de la meute, monsieur le maire. Par peur que les murs nous entendent et... que on ne sait pas qui se mette à retourner cette parole contre nous, en fait. Donc, témoigner du fait que s'ils sont capables de ça à l'échelle d'une municipalité, en fait, de quoi est-ce qu'ils seront capables quand ils arriveront au pouvoir ?
C'est la fin de notre escapade édifiante à Hénin-Beaumont, le 14e épisode de Pagaille, votre collection de podcasts originaux produits par Blast, le souffle de l'info. Un reportage d'Alexandre Hérault, monté, mixé, assemblé, articulé, on dit réalisé, par Vincent Deck.
Remerciements à celles et ceux qui nous ont accueillis sur place et fait confiance. Spéciale dédicace au groupe Rivelaine, l'esprit folk punk du bassin minier, et à l'école buissonnière de Stéphane Titlin, poumon vital culturel de la commune voisine de Montigny-en-Goële. Longue vie à l'association du théâtre de l'Escapade qui continue vaille que vaille à porter ce nom et à offrir hors les murs les représentations des spectacles annulés. Pour aller plus loin dans la perception du combat politique mené sur place par l'équipe d'opposition municipale, vous pouvez lire le récit de Marine Tondelier, Nouvelles du Front, publié en 2017 aux éditions Les Liens qui Libèrent. Nous tenons à préciser, avant de recevoir les commentaires et demandes de droit de réponse, que 4 sollicitations de rencontre ont été adressées à la mairie d'Hénin-Beaumont et sont restées lettres mortes. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir, likez et partagez-le pour rendre visible l'engagement de Blast dans le podcast.
Création
Blast.